frères et sœurs, amis, voilà, nous saluons ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur pour sa parole. Je vais prendre quatre passages, deux, mais en fait qui n'en font qu'un seul dans l'Ancien Testament, et puis deux dans le Nouveau Testament, pour nous dire, nous rappeler ce qu'est un chrétien. Tout simplement. Et ça commence dans l'Ancien Testament. Juste après les 10 commandements, c'est dans le livre de l'Exode, chapitre 21. La loi commence par cette mention. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Il y a un complément dans le livre du Lévitique, chapitre 39, puisque les Hébreux n'étaient pas censés être des esclaves. Mais si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras pas le travail d'un esclave, il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères, car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte, ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Dans tout ce passage, il est question donc de l'esclavage et du fait qu'il y a cette année de grâce, le jubilé, où il y a libération des esclaves, parce que il ne pouvait pas y avoir d'esclaves en Israël, parce que tous appartenaient déjà au Seigneur. Ils avaient été rachetés par le Seigneur de l'esclavage en Égypte, donc ils étaient les esclaves du Seigneur, ils ne pouvaient pas devenir les esclaves des hommes. Et même un maître en Israël était un esclave du Seigneur. Alors, nous avons une correspondance à ce sujet dans le Nouveau Testament, puisque dans l'Épître aux Corinthiens, le chapitre 7, je lis donc au verset 17 à 24, « Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. » C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a été appelé incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il était appelé. Donc, il s'agit de situations concrètes qui existaient encore, bien sûr, à l'époque. L'esclavage était parmi les coutumes. Et ici, L'apôtre situe bien la position du chrétien. Sur le plan social, il peut rester esclave. Et un maître peut avoir un esclave, sauf que dans le Seigneur, les choses sont inversées. Un esclave est un affranchi du Seigneur, un homme libre est un esclave de Christ. Et je compléterai cette réflexion par Éphésiens au chapitre 1, où nous lisons au verset 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Les questions ici maintenant du sceau qui est sur nous par le Saint-Esprit et qui fait que nous appartenons, c'est notre droit de propriété de Dieu sur nous, puisqu'il s'est acquis ses enfants par la rédemption, par le sang de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix par le sang précieux de Christ, enseigne aussi l'apôtre Pierre. Donc nous appartenons au Seigneur. Si je remonte dans 1 Corinthiens 6, verset 19-20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Voilà, je reviens à mon texte initial. Si tu achètes un esclave hébreu, ce qui n'aurait pas dû être, et pourtant, voilà, si ton frère devient pauvre et se vend à toi. La situation d'un hébreu qui est destiné à la liberté et qui se retrouve quand même esclave. Esclave à cause de circonstances de la vie, nous dirons, mais foncièrement esclave à cause de sa faiblesse, à cause pour nous de son péché, de notre péché. Et le péché nous met sous un esclavage et il nous met sous la garde de la loi de Dieu. Nous tombons, on peut dire, parce que Dieu a un plan merveilleux en notre faveur, eh bien, il nous fait découvrir sa loi, il nous place sous cette loi et voilà, nous apprenons à le servir, mais comme des esclaves, non pas comme des hommes libres. Et puis vient le moment où le Seigneur nous fait connaître sa grâce. Et il nous dit maintenant, je te libère parce que j'ai payé le prix du pardon, parce que j'ai donné ma vie, la vie de mon fils pour toi. Je t'ai racheté par le sang de l'agneau. Maintenant, c'est l'année du jubilé, l'année de la grâce. Maintenant, je te libère. Désormais, tu es un homme libre. Je ne te tiens plus captif de cette loi. Je te libère de cette loi. Tu peux vivre libre. Effectivement, il pouvait sortir. Et s'il était arrivé avec une femme et des enfants, eh bien, il sortait avec sa femme et ses enfants. La famille était un tout. Mais voilà, une situation différente pouvait se présenter. Dans son esclavage, il pouvait avoir reçu une femme. Il pouvait avoir découvert l'amour, avoir une postérité, donc avoir un avenir. Et s'il revenait à sa liberté, ben c'était pour lui seul, mais il devait laisser la femme et les enfants en propriété à son maître. Parce que c'est son maître qui lui avait donné, c'est son maître qui lui avait donné l'amour, c'est son maître qui lui avait donné l'avenir à travers ses enfants. Et là, il avait le choix. Il pouvait dire, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Je veux rester dans cette maison où j'ai découvert la liberté et où maintenant je peux continuer à servir mon maître d'une façon volontaire parce que j'ai un intérêt supérieur qui est celui de l'amour. Je ne vis plus pour moi-même, je vis dans l'amour que j'ai découvert, je vis avec la perspective, avec l'avenir, avec la postérité qui est promise, et ça je ne veux pas l'abandonner, je ne veux pas le perdre. Donc je préfère rester dans la condition d'un esclave, volontairement, pour jouir de ce que j'ai reçu de la part de mon maître, c'est-à-dire l'amour et la destinée. Et voilà, à partir de ce moment, devant Dieu, la chose est scellée, la personne est marquée par un geste qui impliquera une blessure, un poinçon sur l'oreille, et à partir de ce moment, il appartient définitivement à son maître. Il sera pour toujours à son service. Un service qui, dit le Seigneur dans l'autre passage, ne sera pas celui d'un esclave qui est dominé par son maître, mais le service d'un ouvrier, d'un simple mercenaire qui s'est mis au service, qui est employé, qui reçoit un salaire pour cela. Eh bien, cette situation, c'est celle du chrétien. Je crois vraiment que, à partir de ce passage, le Seigneur nous enseigne ce qu'est un chrétien. Nous avons, à cause de notre péché, nous sommes dans une situation d'esclavage. Le Seigneur nous a repris à lui par sa grâce, il nous a fait connaître la vérité, il nous a fait connaître la justice, la loi, la sainteté. Et nous sommes venus découvrir cette vérité auprès de lui. Mais le Seigneur ne veut pas, en fait, que nous soyons des esclaves contraints. Il nous veut avec lui, mais il veut que nous soyons auprès de lui de façon volontaire, que nous soyons des serviteurs volontaires, que nous soyons engagés à son service avec notre volonté, parce que nous avons découvert que dans sa grâce, il nous donne ce que nous n'avions pas. Il nous donne l'amour, il nous donne la destinée, il nous donne d'être complet en lui, d'avoir une vie totale, une vie parfaite, une vie complète. Et à ce moment-là, eh bien, nous ne désirons pas quitter pour une liberté qui nous servirait à quoi, en fait, de vivre simplement libre pour nous-mêmes. Nous préférons nous mettre définitivement au service de ce maître, être marqué de son sceau à lui, pour vivre dans sa maison à lui, et le glorifier définitivement dans l'amour, dans un projet de vie, dans un projet de développement, avec ce que le Seigneur permettra pour nous. Alors ça, c'est une situation hors norme dans ce monde. C'est une situation unique qui n'existe pas en dehors de la foi au Seigneur. Ce qui fait que le monde ne supporte pas le chrétien, l'enfant de Dieu, foncièrement, parce que le monde supporte des personnes qui sont esclaves d'une loi, ils supportent des personnes qui ne font que ce qu'ils veulent, mais ils ne supportent pas des personnes qui volontairement appartiennent et servent le Seigneur. Il y a deux grandes situations au sein de ce monde. Il y a des personnes qui sont tenues par des lois religieuses, qui sont tenus par des traditions, qui sont esclaves de leurs traditions et qui n'accéderont jamais à la liberté. Et il y en a d'autres qui sont au contraire indépendants de toute autorité de toute loi qui ne font que ce qui ne vivent que pour eux-mêmes, qui ne vivent que par rapport à leurs propres pensées, par rapport à leurs propres désirs. Eh bien, le chrétien, il n'est ni l'un ni l'autre. Il a compris que dans sa liberté, à lui, il était sous la domination du péché, donc il se perdait, sa vie se perdait dans le péché, donc il ne veut plus être cet homme libre par lui-même, il ne veut plus être cet homme qui fait ce qu'il veut. Il a compris que sa vraie situation, elle était auprès du Seigneur, qui est le Dieu de la loi, mais aussi le Dieu de la liberté. L'apôtre Paul disait qu'il n'était pas sous la loi, mais qu'il n'était toutefois pas sans loi, étant sous la loi de Christ. C'est ça notre situation. Nous sommes sous la loi de Christ, et dans cette connaissance de la loi de Christ et de sa personne qui s'est donnée pour nous, eh bien, nous trouvons aussi notre épanouissement, nous trouvons notre raison de vivre ici-bas, nous trouvons tout ce qui nous complète, tout ce que nous ne pouvons pas être seuls, eh bien, le Seigneur nous l'accorde par sa grâce, en nous donnant une famille, une communauté, des frères et sœurs, une église dans laquelle nous pouvons nous développer et être donc non pas un corps singulier, mais vraiment un corps qui a une dimension qui est à la gloire de Dieu et qui va permettre à toute l'œuvre de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Voilà les quelques réflexions que je voulais partager avec vous ce matin sur cette situation qui se présente dans la loi. Tout dans la loi de Dieu, en fait, nous parle de notre situation dans le péché et la manière dont Dieu résout notre drame, en fait, en nous amenant à lui qui est notre maître, mais qui est aussi notre libérateur. Donc saisissons bien ces choses, nous continuons à les méditer, et puis soyons reconnaissants de ce que se soit présenté devant nous, celui auquel nous pouvons être associés pour le service de Dieu, Jésus-Christ lui-même. Amen.